Loup. Dans ce journal, on parlera de politique avec ce départ. Gaston Flosse quitte la présidence de son parti. Pour les députés polynésiens, ça ne fait que commencer, vous les entendrez. Et enfin, on parlera d'économie. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et Nana Gaston Flosse.
Et oui, le vieux lion quitte la présidence du Amui Tahira. Il l'a annoncé ce matin en conférence de presse et Caroline Perdry, vous y étiez.
Oui, bonjour Lucie. Nana Gaston Flosse, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Le vieux lion a donné ce matin effectivement une conférence de presse. À 93 ans, il démissionne de la présidence du Amui Tahira, qu'il occupe depuis plus de 47 ans. Il met en avant son état de santé. Et comme le prévoient les statuts du parti, le premier président délégué, Bruno Sandras, est chargé d'organiser un congrès qui désignera celui ou celle qui endossera le très large costume de Gaston Flosse. Ce sera le 28 septembre prochain et les candidats peuvent se manifester jusqu'à 15 jours avant. Pascal Haïti et Gilda Vaichaud semblent être prêtes à se porter candidates. Quant à Bruno Sandras, il ne confirme pas, disant juste que sa mission est de faire en sorte qu'au soir du congrès, le Amui Tahira soit uni et soudé. Mais sa préférence semble aller à des discussions préalables qui mettraient en avant un seul candidat. Pas question en tout cas de changer de nom ni de ligne politique. C'est toujours le statut de pays associé qui est l'objectif. Et pas question de remettre en cause l'alliance Amui Tahira qui a fait ses preuves en envoyant deux députés à Paris et sur laquelle le président actuel du Amui Tahira compte pour les communales. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, Lucie.
Merci Caroline Perdry. Voilà ce qu'on peut dire de l'actualité donc de Gaston Flosse qui vient d'annoncer sa démission de la présidence du Amui Tahira.
On reste dans la politique, mais on s'en va à Paris cette fois avec les nouveaux députés polynésiens.
Oui, c'est Mereana Red-Arbelot confiée à notre partenaire Outre-mer 360 que des discussions étaient toujours en cours au début de cette semaine. Les choix des groupes sont faits pour les députés polynésiens autonomistes. Moirani Frebo siégera chez Ensemble pour la République. Il a choisi le groupe présidentiel, espérant profiter des avantages de cette grosse structure.
Le groupe est quand même important, c'est le deuxième groupe de l'Assemblée nationale avec une centaine de députés, 168 en comptant l'ensemble du bloc avec Horizon et le Modem, avec une grosse structure juridique administrative sur laquelle on pourra s'appuyer pour porter nos textes. Et surtout, on est trois députés du Pacifique, donc moi-même pour la Polynésie, Michaele CO pour Wallis et Futuna, et Nicolas Metzdorf pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que ça peut être intéressant sur une stratégie pacifique que l'on pourrait avoir en commun.
L'idée était aussi de se répartir avec Nicole Sanker afin d'avoir respectivement plus de poids pour porter la voix polynésienne. Une stratégie suivie pour les demandes de sièges au niveau des commissions.
J'ai fait la demande au sein de la commission des lois. Je ne peux bien sûr rien confirmer. On attend la réunion de jeudi, mais au sein de mon groupe, la demande semble avoir été validée. Nicole Sanker, de son côté, a fait la demande au sein de la commission des affaires sociales, au sein du groupe IOT, pour justement qu'on puisse se partager les sujets. On a déjà nos parlementaires qui sont dans certaines commissions, dont par exemple la commission des finances pour Teva. Donc je pense que ça va faire un bel équilibre pour qu'on puisse faire avancer un maximum de dossiers de la manière la plus efficace qui soit.
De son côté, Nicole Sanker sera bien chez Lyotte. Le groupe Liberté, Outre-mer et Territoire doit être finalisé demain. Des députés n'ont pas encore choisi le groupe où ils siégeront. La situation politique avec une Assemblée nationale sans majorité absolue est inédite et pèse dans les discussions des parlementaires.
D'échanger tous les jours avec des députés qui sont à l'Assemblée nationale depuis assez longtemps, c'est vrai que nous vivons une situation totalement inédite avec énormément d'incertitudes et notamment sur les différents groupes, les différents candidats et même la nomination d'un premier ministre. Et ce qui complique un peu les choses et même peut créer de l'instabilité.
Peser sur l'échiquier politique, c'est ce que cherche chaque député pour faire entendre la voix de sa région ou de son territoire. Et Nicole Sanker mise sur le groupe Lyotte car justement ce petit groupe pourrait bien être déterminant dans certains votes.
Alors ce qui est intéressant avec le groupe Lyotte, en nous restant des députés indépendants mobilisés pour porter la voix de leur territoire, en fin de compte, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de comparaisons aussi qui peuvent nous être utiles pour porter des sujets et surtout des priorités pour nos territoires ensemble. Et le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, les petits groupes comme Lyotte permettront peut-être de faire la balance à un moment donné et donc nous de pouvoir mettre en avant nos priorités, nos revendications pour nos territoires.
Les deux députés autonomistes s'attendent à quelques difficultés vu la situation politique en France et notamment cette délicatesse constitutionnelle. La démission du gouvernement Attal a été acceptée hier par Emmanuel Macron, hier soir en France. Des ministres retrouvent donc leur siège de parlementaire tout en restant ministres pour assurer la gestion des affaires courantes, ce qui pose un gros problème d'équilibre du régime pour un spécialiste de la Constitution, interrogé dans le journal Libération.
On fait un point économie avec toi Lucie, le PIB de la Polynésie française progresse de 3%.
Après la présentation du bilan économique de 2023 par l'IOM autour de l'Institut de la Statistique de présenter des chiffres, l'IOM notait déjà de bons signes économiques, une inflation en baisse, des emplois en hausse, une consommation et des crédits qui repartent et des entreprises confiantes. L'ISPF confirme cette bonne santé économique avec une croissance du PIB de 3% en 2023. C'est donc la troisième année de croissance après 4,5% en 2022. Et 2,1% en 2021. Le produit intérieur brut continue sa progression pour atteindre plus de 700 milliards de francs, comme l'explique Nadine Jourdan, la directrice de l'ISPF.
Et donc le choc, la baisse de 2020 est pleinement comblée. On a même un PIB qui est supérieur de 10% à celui qui était mesuré en 2019. Donc aujourd'hui, en 2023, fin 2023, le PIB atteint plus de 700 milliards de francs.
Selon l'Institut, la dynamique intérieure contribue pour 2 points à ce bon résultat. Les ménages profitent d'un marché du travail en forme et d'une inflation en baisse. Elle est 2 fois moins forte qu'en 2022.
Derrière ce résultat, la demande intérieure contribue pour les 2/3, donc à peu près 2 points sur les 3. Et puis les échanges extérieurs contribuent pour près d'1 point sur les 3 points de croissance. Donc la demande intérieure, elle comprend la consommation des ménages qui représente 480 milliards de francs, donc c'est le poste le plus important de la création de richesses. Elle a été soutenue par la dynamique du marché du travail, avec un nombre d'emplois en équivalent temps plein qui a progressé de 4% environ.
Ce sont aussi les records de l'export qui ont porté la croissance économique l'année dernière, notamment les recettes touristiques, avec une fréquentation record. 262 000 touristes ont été accueillis l'année dernière. Recettes estimées 100 milliards de francs, ce qui vient dynamiser les secteurs du transport et de l'hôtellerie-restauration. Les exportations des produits de la périculture affichent également de bons résultats. Ils ont doublé tant en valeur qu'en volume. L'ISPF note également que les investissements des entreprises progressent, tandis que ceux du pays restent stables en valeur mais reculent en volume.
Marathon des inaugurations à Taupo se poursuit.
Oui, J-12 pour les épreuves de surf. Les autorités ont organisé ce matin une petite cérémonie pour officialiser la fin d'un chantier qui a duré 17 mois. Coût des travaux 393 millions de francs, financés à 60% par l'État et 40% par le pays. Cette nouvelle marina est destinée à terme aux pêcheurs. Pour le ministre Jordi Chan, c'est une infrastructure qui offre le meilleur en termes de sécurité et de normes environnementales. Il faut dire que l'ancien site mis à disposition des pêcheurs depuis 20 ans avait bien besoin d'être réhabilité, surtout après les fortes roules de 2021. Les emplacements étaient désordonnés, le ponton principal était inutilisable par endroit. Aujourd'hui, la marina a une capacité d'accueil double avec 44 emplacements disponibles. La réalisation d'un terre-plein de 3000 m² vient également offrir un espace de vie supplémentaire. Une zone de carénage avec séparateur d'hydrocarbures a aussi été réalisée. Les pêcheurs disposent même d'une station-service sur place. Bref, il s'agit de la concrétisation d'un projet d'envergure qui a tout de même dû être adapté en cours de route. On écoute les précisions du ministre des Grands Travaux.
Par rapport aux études qui avaient été faites avant la mise en œuvre du projet, on a constaté que les sols qui supportent la structure étaient beaucoup plus hétérogènes. Et du coup, il a fallu adapter la longueur de pieux. En fait, il avait fallu doubler la longueur des pieux qui supportent la structure pour pouvoir la construire. Ce qui a fait que, compte tenu du budget qu'on avait, on a dû réduire un peu la longueur du ponton pour pouvoir construire une infrastructure dans le budget qu'on avait.
Le ministre a aussi insisté sur le fait que ce chantier n'a pas empêché les pêcheurs de travailler. Ils pourront d'ailleurs continuer d'exercer même pendant la période des Jeux. Pendant cette période, c'est le comité organisateur des Jeux qui aura la responsabilité du site. Au travers d'une autorisation d'occupation du domaine public du 18 juillet au 10 août, les précisions de Barbara Martin, responsable du COJO à Tahiti pour Paris 2024.
Sur cette période-là, on en prend entre guillemets possession au sens où on va pouvoir y faire accoster l'ensemble de nos bateaux. Donc je rappelle qu'on a un peu moins de entre 24 et 30 bateaux qui sont les bateaux qui sont sur l'aire de compétition. On a aussi le même chiffre par rapport au jet ski et tous nos prestataires qui vont être on va dire impliqués sur les jeux pourront le soir amener leurs bateaux ici et rentrer et les mettre en sécurité.
À noter toutefois que les particuliers n'ont pas été oubliés. S'ils n'ont pas accès à la marina de Teahupo, ils pourront en revanche se rendre à la marina de Veirao. Et ce sera pareil pour les prestataires qui ne sont pas mobilisés dans le cadre des Jeux.
On parle culture maintenant, Lucie, avec Évrard Chaussois.
Oui, c'est lui, l'auteur de la fameuse reproduction en bronze de la surfeuse légendaire Veheyatua Itemataï, qui trône désormais au PK0. On vous en a déjà parlé, elle a été inaugurée la semaine dernière. Et cette fois, c'est l'artiste lui-même qui raconte sa fabrication. Documentation précise, croquis, séance photo, modélisation en 3D, modelage en argile, le tout en 4 mois seulement. Évrard Chaussois a abattu un travail titanesque pour livrer la statue dans les temps, nous a-t-il raconté. Une chance inouïe pour lui, mais aussi beaucoup de nuits blanches. L'artiste de Rayatea s'est dit très honoré d'avoir été choisi pour ce travail. C'est également lui qui a réalisé la statue de Bobby installée au parc Paofai.
Et enfin, à noter ce rendez-vous culturel pour terminer.
Ce sera lundi prochain à partir de 17h30. Le pays invite le public à la projection gratuite du documentaire Deep Rising, réalisé par Mathieu Ritz et narré par Jason Momoa. Ce film explore le paradoxe auquel le Pacifique est confronté entre les menaces écologiques et financières des extractions minières et les besoins de minerais dans le cadre de la transition énergétique mondiale. L'entrée est gratuite, mais le public doit être muni de billets. Ils sont disponibles à Carrefour et chez nous à Radio 1 ou en ligne sur ticketspacifique.pf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie, on te retrouve donc à 16h. On passe à la météo sur Radio 1.